des priorités pour le présenter à la communauté en décembre. Je sais que je n'ai pas encore répondu à votre question par rapport à la question de savoir quelle serait la date butoir. Est-ce que vous avez besoin de l'information maintenant ou vous avez besoin d'attendre d'instructions supplémentaires de notre part? J'ai besoin donc de l'aide de quelqu'un de mon équipe. C'est que qui parle maintenant.
Thank you, Heather and Fadi and Suzanne.
Merci, Heather, Fadi et Suzanne. Notre réponse à la lettre n'est pas encore requise en ce moment. L'ICANN a pensé à publier une révision de la procédure pour tenir compte des exceptions aux conditions de juice basées sur les lois nationales et pour pouvoir tenir compte des données retenues. Ce n'est pas une condition pour publier l'accord. En fait, la publication de l'accord est une condition pour pouvoir ensuite approuver le RAA. Mais ce RAA que nous allons publier sera soumis à une période de commentaires publics et ensuite nous allons publier une révision des procédures. C'est Heather qui prend la parole et cède la parole aux États-Unis. C'est les États-Unis qui parlent. Merci de cette réponse. Donc, je crois donc comprendre qu'il y aura deux documents pour les commentaires publics. C'est Culprits et Susan. Oui, mais la lettre, il faut la laisser de côté. Donc, il ne faut pas, enfin, rejeter cette lettre. Elle est bonne. Et c'est Culprits. Chris Despain qui parle. Bon, je voudrais vous ramener un tout petit peu ailleurs par rapport à WHOIS et aux questions de confidentialité où vous pourriez peut-être nous aider. Vous ne devez pas être étonné en écoutant que la lettre reçue de la DPA et de l'Union européenne suggère que la situation actuelle ou que les intentions qui sont en dehors de la loi, ont causé une forte confusion dans beaucoup de regroupements. Nous voudrions savoir comment nous pourrions vous aider pour apporter des précisions sur le contenu de la lettre. Parce que je crois que, enfin, pour citer l'article 29, les partis sont des autorités indépendantes et c'est pour cette raison que nous devons préciser que l'opinion exprimé dans cette lettre n'a pas de répercussion légale au sein de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider à cet égard. Heather, c'est de la parole à la Commission européenne. Merci beaucoup, Madame la Présidente, dit l'Union européenne. Pour que tout le monde se sente un peu plus à l'aise, il s'agit d'un groupe consultatif formel qui s'occupe de la protection des données de l'Union européenne. Et l'article 29 est basé sur une directive qui donne une orientation sur cette question. Ils savent très clairement qu'ils sont indépendants de la Commission européenne. Cela peut donc vous donner une idée de ceci, que ce n'est pas la position de l'Union européenne qui fait cela, mais la position présentée par le comité consultatif. Merci de cette précision. C'est Heather qui le dit maintenant. Nous avons des questions de l'Australie par rapport à la diligence due. C'est l'Australie qui prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'essaierai d'être bref. À vrai dire, nous voulons une précision. Comme nous l'avons dit dans des réunions au préalable, et comme vous le savez vous tous, il y a deux parties pour les recommandations des organismes d'application de l'OLA. Il y en a un qui se rapporte aux recommandations pour l'application des amendements de la RRA et la deuxième qui se rapporte aux activités de due diligence. Ces recommandations, je crois que la réponse du Conseil au communiqué de Prague montre que l'on fait des progrès dans d'autres domaines où l'on mentionne une autre équipe, mais ce qui n'est pas clair, c'est si l'ICANN sent que l'on peut mettre en œuvre ces recommandations de façon complète. Il y en a quatre de ces recommandations. Il semble bien qu'il y en a eu quelques-unes pour lesquelles il y a eu des progrès et pas pour d'autres. Nous aurions besoin de certaines précisions pour savoir si l'ICANN estime qu'il y a certaines choses à développer encore ou si l'on pourrait savoir si l'on peut développer encore cela.
Would you like to respond? Kurt, est-ce que tu voudrais répondre? C'était Heather qui avait pris la parole. Fadi Shehadeh prend la parole. Nous avons fait de très bons progrès avec la communauté de l'application de la loi dans un grand nombre de domaines, et Kurt pourra en parler. Nous avons fini les discussions avec eux dans la communauté. Nous sommes en train d'incorporer les résultats de ce travail dans les nouvelles versions de l'accord. Je ne sais pas si Kurt voudra parler des détails de ce travail ou peut-être qu'on pourra attendre quelques mois. Mais Kurt, c'est celui qui aura plus de détails par rapport à cette question. Heather passe la parole à l'Australie. L'Australie prend la parole. Je voudrais juste des précisions par rapport au processus d'ERA. Il y a un nombre de recommandations et il y a des recommandations qui ont trait à ce que peut faire l'ICANN du point de vue administratif. Donc je voudrais tout juste, la question est plus liée à cette deuxième partie des recommandations. Bruce Stonkin prend la parole. En ce qui concerne ce que dit l'Australie, je pense qu'il fait mention à l'accord entre bureaux d'enregistrement. C'est des accords qui sont négociés avec des bureaux d'enregistrement accrédités. Mais je pense que l'Australie part du processus en amont, où il y a des exigences du point de vue de la diligence due, des aspects qui doivent être considérés avant de passer au RAA. Je pense que la question de l'Australie est de savoir si on va tenir compte des recommandations faites par les organismes de l'application de la loi dans le processus d'accréditation des bureaux d'enregistrement. Je crois que c'est celle-là la question. Je n'ai pas une réponse immédiate en ce moment. Kurt prend la parole. Je vais vous donner une réponse plus tard. Nous avons tout récemment amélioré le processus d'accréditation pour inclure un contrôle d'antécédent en tant que partie du contrôle d'accréditation. C'est ce qu'on a inclus dans ce processus l'année dernière. En ce qui concerne ce qui manque de la part des organismes d'application de la loi, la réponse, je vais vous la donner plus tard. Heather prend la parole. L'Égypte demande la parole en tant que coprésident du groupe de travail de mise en œuvre des recommandations de l'ICANN. L'Égypte prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Très brièvement, je souhaiterais attirer l'attention des membres du Conseil d'administration sur deux suggestions qui ont été faites au cours de la réunion du groupe de travail BGRI qui a eu lieu dimanche et qui ont trait au processus en vertu duquel le conseil d'administration essaye d'arriver à une solution d'accord. Et ces deux suggestions ont trait avec l'établissement d'un délai maximum entre les consultations entre le GAC et le conseil d'administration. Et la deuxième suggestion, c'était une période de 6 mois comme date délai maximum. Et l'autre suggestion, si le conseil d'administration décide de ne pas accepter l'avis du GAC, que cette décision soit soutenue par 2/3 des membres. Ces deux suggestions ont été déjà manifestées auprès des membres du conseil d'administration qui sont membres du groupe de travail conjoint. Et on nous a dit qu'il fallait prendre une décision au sein du conseil d'administration et que des changements pourraient être incorporés au statut. Mais il nous a paru important de attirer l'attention sur cette question puisque le conseil d'administration est ici réuni. Merci l'Égypte. La présidente prend la parole. Merci de nous rappeler cette suggestion. Vous pouvez être sûr que j'ai pris acte de ces questions depuis dimanche. Je vais présenter donc ces questions à la considération du conseil d'administration au plus tôt possible. Heather reprend la parole. Steve Crocker prend la parole. Je ne peux rien ajouter à ce que a dit Bill, car nous n'avons pas eu l'occasion de nous réunir pour parler de ces questions. Et comme on l'a déjà dit, quand il y a ce type de suggestion, il faut incorporer des changements au statut et cela prend du temps et beaucoup de travail. Ceci dit, à mon avis, cette suggestion d'avoir un délai maximum et une super majorité de membres du conseil d'administration pour soutenir une décision, je pense que cela a un sens pour s'assurer que le processus soit équilibré. Et deuxièmement, du point de vue purement politique, c'est important pour nous assurer qu'il y ait une majorité. Le conseil d'administration prend très au sérieux l'avis du GAC, que ce soit au niveau de la présidence, que aux autres niveaux. Et je peux vous assurer que si nous prenons la décision de ne pas respecter l'avis du GAC, il faut avoir des fondements très solides, car autrement, on serait vraiment en problème. Donc, que ce soit de façon formelle ou informelle, j'attendrai que ce conseil d'administration, s'ils vont prendre le chemin le plus difficile et qui vont ne pas respecter l'avis du GAC, qu'il vaut mieux que les fondements soient vraiment très fermes. Mais c'est un avis informel. Heather Dryden prend la parole. Merci, Steve. En ce qui concerne le programme des nouveaux GTLD qui est en cours, pour votre information, pour que vous soyez informés des discussions que nous avons eues, jusqu'à présent, les membres du GAC ont certaines inquiétudes par rapport à certaines catégories ou types de candidatures au GTLD et nous voulons voir comment cela pourrait être traité en tant que partie, en tant que faisant partie du processus d'alerte précoce, ainsi que les décisions que peut prendre l'ICON par rapport à ces décisions. Certaines des questions concernent le fait de savoir comment les candidats devront respecter les engagements assumés dans leur candidature en ce qui concerne les noms de domaine de premier niveau, et puis de savoir comment les candidats peuvent être contraints par certains contrats, par exemple, si on n'arrive pas à un accord entre un candidat et un gouvernement par rapport à une inquiétude soulevée par un membre du GAC ou par le GAC plus tard dans le processus. C'est le type de questions sur lesquelles nous nous sommes penchés. Je ne sais pas si vous avez des suggestions ou des commentaires par rapport à ces inquiétudes. Ce serait un moment opportun pour en parler. Je préférerais que Kurt y réponde, si c'est possible. Kurt prend la parole. En ce qui concerne l'incorporation de restrictions dans les accords et à les faire valoir, le guide de candidature est écrit de telle sorte que si un candidat est enregistré en tant que candidat pour une communauté et qu'il identifie les restrictions associées à l'appartenance à cette communauté, ces restrictions seront incluses dans l'accord. Et l'ICAN va s'assurer que le candidat respecte ses engagements. En ce qui concerne les accords avec le gouvernement, le guide de candidature n'en parle pas et je recommanderais que le GAC ou les gouvernements, je ne sais pas ce qui est le plus adéquat, quand ils enregistrent leur candidature et que l'on parle par rapport aux restrictions en utilisant ces cas réels, que l'ICAN et le GAC puissent à ce moment-là parler de la façon dont ces restrictions pourraient être incorporées dans les accords. Steve prend la parole. J'aimerais demander à Bertrand de prendre la parole. Bertrand de la Chapelle prend la parole. Je voulais rebondir sur cette question pour demander au GAC aussi si vous avez considéré le type de situation où un gouvernement donne une lettre de soutien à une candidature dans le processus et pour une raison quelconque au niveau national, pour un changement de gouvernement, d'autorité, etc., la nouvelle autorité, le nouvel gouvernement considère que cette candidature ou ce GTLD qui a été opérationnel pendant plusieurs années n'est pas celui que le gouvernement souhaite soutenir. Cela demanderait donc une délégation dans le CCSO. Sans le cadre de délégation, cela pose un problème au niveau de la délégation. Je me demande si vous avez pensé à cette situation, à ce cas de figure, et si vous avez des commentaires par rapport à des situations comme celles que je viens de décrire. Car cela pourrait avoir un impact sur la prévisibilité et les opérations des opérateurs de GTLD par rapport aux accords qu'ils ont obtenus quand ils ont présenté leur candidature. Heather prend la parole. Merci Bertrand. J'ai l'Australie et Chris Dispain. L'Australie prend la parole. Merci, très bien. Merci beaucoup, Kurt, pour ta réponse. Je voudrais être spécifique. J'aimerais préciser qu'il y a des réponses à la question 20 qui concerne les contrats et la façon de les faire respecter. Nous sommes très intéressés à la question 18 qui concerne tous les candidats et qui concerne la mission et le but de la candidature, mais plus spécifiquement les règles opérationnelles pour minimiser les coûts sociaux. C'est un point qui nous inquiète ou qui nous tient à cœur. Je me demande ce que fait le candidat par rapport à cette question. Est-ce qu'ils seront obligés de le respecter de ce point de vue-là? Parce que c'est des questions clés pour les membres du GAC qui évaluent les candidatures des GTLD pour voir s'il y a des points qui peuvent poser des problèmes. Je parle au nom de l'Australie. Dans certains cas, aucune des chaînes de caractère ne nous pose de problème en elle-même. Cela concerne plutôt la façon dont elles vont être gérées. C'est cela qui peut nous poser des difficultés. Je me demande donc si les engagements assumés par les candidats dans la question 18 seront inclus dans les contrats et seront soumis à une application dans le cadre de ces contrats. Kurt prend la parole. Merci pour la question. La façon dont le guide de candidature a été rédigé a justement essayé d'incorporer ce type de restrictions. Ces coûts sociaux ou les questions liées aux coûts sociaux étaient liées aux inquiétudes des candidat par rapport à ce sujet. Lorsqu'il faut parvenir à un équilibre entre les positions de restriction et permettre que les modèles de business puissent changer au fil du temps, la façon dont on a configuré le modèle actuellement envisage les restrictions basées sur la communauté. Comme j'ai dit avant, avec le processus d'alerte précoce, nous pouvons voir quelques exemples clairs et avec le temps, je pense qu'on pourra travailler avec les candidats pour considérer l'incorporation de ces restrictions dans les accords. Ça a été très difficile de le faire a priori avec une question non définie sans savoir si on pouvait ou pas incorporer ces restrictions dans l'accord. Heather reprend la parole. J'ai Chris Dispain et puis j'ai l'Australie. Chris Dispain prend la parole. Je crois qu'il nous faut diviser cela en deux domaines différenciés. Tout d'abord, il y a la question 18. Il y a deux volets dans cette question. Tout d'abord, la question 18. Il s'agit d'affirmations que l'on manifeste dans la candidature. Il y a une clause qui dit que l'on garantit que tout ce qui est déclaré dans la candidature est vrai. Dans ce domaine en particulier, je considère, et c'est quelque chose que j'ai appris des avocats, je considère donc qu'on peut dépendre, on peut se soutenir, on peut se baser sur cette garantie qui se trouve dans l'accord avec le bureau d'enregistrement, pardon. Mais dans la situation que l'on prendra comme exemple où l'on conteste une candidature et que l'on émet une alerte précoce, le but de cette alerte précoce est de demander au candidat de donner des explications pour pouvoir revoir sa situation. Le candidat peut décider de retirer sa candidature. L'important, c'est de s'assurer que ce qui a été accordé avec le candidat soit respecté. Et c'est dans ce domaine où il faut travailler davantage. Je n'ai pas une réponse, mais je voulais être sûre que l'on soit clair par rapport à quoi on est en train de parler, par rapport à ce qu'on est en train de parler. On parle de cet aspect-là. Heather reprend la parole. Merci, Chris. L'Australie a la parole. Merci, Chris. Oui. Mais cela n'aborde pas tout le problème. Je voudrais trouver un exemple spécifique. Supposons une chaîne de caractères X qui est utilisée dans un secteur réglementé dans un pays ou dans plusieurs pays. Et dans la réponse, pour minimiser les coûts sociaux, conformément à la question 18, on établit la mission, le but et les réponses du candidat et tout semble être bon d'emblée. Et il n'y a pas besoin d'émettre une alerte précoce. Or, qu'est-ce qui se passe si le candidat ne respecte pas son engagement? Il y a une garantie. Mais j'aimerais savoir ce qui se passe au niveau du contrat. Chris Dispain prend la parole. Je vais essayer de vous répondre. On dit ici que toute l'information, tout le matériel, toutes les déclarations faites dans la candidature du registre et dans toutes les déclarations faites par écrit dans la négociation de l'accord sont vraies et correctes dans tous ces aspects. Et que ces déclarations sont toujours vraies et correctes. À moins que le contraire soit manifesté par écrit par l'opérateur de registre. C'est la garantie. Je comprends bien votre souci. Qu'est-ce qui se passe si ces engagements ne sont pas respectés? C'est là où il faut chercher une réponse. Heather Dryden prend la parole. J'ai des demandes de prise de parole, mais une partie de la question consiste à savoir quel est le processus à suivre lorsqu'il y a un changement significatif après coup. Est-ce bien cela? Si l'on pouvait recevoir une réponse par rapport à cette question, à savoir comment garantir les contenus de l'accord, mais si on attend que les choses ne changent pas, et nous avons pu constater que les choses peuvent changer avec les GTLD. Le Royaume-Uni a la parole, l'Espagne et puis l'Allemagne. Le Royaume-Uni prend la parole. Le problème que pose l'Australie reflète ce qu'un grand nombre de nos régulateurs disent, à savoir que face à cette situation, certaines propositions semblent avoir prendre en compte l'intérêt public et l'intérêt des consommateurs. Les registres qui visent des activités réglementées, qui ont des risques, sont attentifs. Il y a une certaine attente au niveau du Royaume-Uni par rapport à certains secteurs, le secteur de la santé, le secteur financier, la charité, pour n'en mentionner que quelques-uns. Donc, ce que nous cherchons, en fait, c'est de faire en sorte que l'on puisse assurer que l'ICANN va permettre qu'il y ait une bonne gouvernance qui permette de respecter les engagements pris en matière de du statut du métier, l'autorité et le consentement de certaines autorités, d'organisations, que ce soit des organisations de charité, fournisseurs, etc. C'est pour ça qu'il nous faut réfléchir sur ces questions. On va en discuter, bien sûr, au sein du GAC, mais nous voulons attirer votre attention sur cette question aussi. Nous avons tous confiance dans les réponses à la question 18, mais ce n'est qu'un début. Et je veux revenir sur ce que Bertrand a dit. On n'a pas eu un débat par rapport à ce qu'il a dit en ce qui concerne les gouvernements ou le soutien de certains gouvernements aux GTLD géographiques, alors qu'il y a des changements dans la situation de soutien de certains gouvernements. Je veux préciser, et je sais que Kurt connaît cette question, je voudrais voir que les gouvernements autorisent que les GTLD soient considérés avec les IDN et que dans cette première étape d'évaluation, cela soit le cas. C'est la position du Royaume-Uni et je sais qu'il y a d'autres administrations qui partagent cette position.
Vous aviez-vous répondu à ces trois points? Fadi, c'est Fadi qui prend la parole. Oui, bien sûr, c'est tout simplement pour dire que c'est des questions importantes auxquelles on ne peut pas répondre n'importe comment. J'en prends note et nous allons certainement chercher une réponse à la question de l'application de la loi, la mise en œuvre de la loi dont le Royaume-Uni parle. Quant à la priorité des TLD géographiques ou GTLD, nous avons pris bonne note de cela et nous chercherons une réponse à cela. C'est Heather qui prend la parole. Je crois que tout cela en est à l'étape de débat dans le GAC et ce n'est qu'une proposition du Royaume-Uni. Ce n'est pas encore une proposition du GAC, mais cela nous concerne en ce sens que cela concerne certaines catégories et les thèmes qui y sont liés. C'est Fadi qui parle. Oui, bien sûr, nous recevons ces demandes en dehors du GAC et certains membres du GAC nous ont posé directement la question de façon individuelle, chaque pays de façon individuelle. Je connais l'existence de ce besoin et j'attends votre conseil, mais nous devons attendre pour répondre de façon générale parce qu'il y a beaucoup de demandes pour faire avancer certains types de TLD. C'est pour cela que nous voulons avoir une réponse plus large. Voilà, c'est Heather qui donne la parole maintenant à l'Espagne, à l'Allemagne et au traitement du prochain point de l'ordre du jour. C'est l'Espagne qui prend la parole maintenant. Merci de cette occasion qui m'est accordée pour m'exprimer. Je voudrais parler de certains thèmes généraux qui sont soulevés à partir du nouveau processus des nouveaux GTLD et parler des commentaires faits par mes collègues du Royaume-Uni et des États-Unis. Je vais parler espagnol. Si cela ne vous dérange pas, je vous prie de bien vouloir mettre vos écouteurs ou bien lisez sur l'écran. Merci beaucoup. Nous avons eu, il y a quelques jours, sur une proposition d'établissement d'un ordre pour l'attribution des domaines qui ont été demandés. J'espère que cette proposition ne sera pas encore tout à fait close et que l'on admette encore certaines modifications, que l'on admette la possibilité d'y introduire certaines modifications. Moi, je dirais que ce système a eu un certain inconvénient. Il est très aseptique, très neutre, mais il ne respecte pas le principe de l'égalité, en ce sens que le principe de l'égalité implique que l'on traite différemment les candidatures qui sont différentes. Et c'est quelque chose dont on n'a pas trop tenu compte, finalement. Bien sûr que d'accorder un traitement spécifique à des candidatures qui impliquent certaines singularités signifie que l'on n'applique pas un critère aléatoire, mais plutôt que l'on tient compte des principes d'intérêt public et tenir compte aussi de la finalité, de l'élargissement de la diversité géographique et culturelle sur Internet. C'est en ce sens-là que je trouve qu'il s'agit d'une bonne idée d'avoir mis en premier lieu les domaines multilingues, même si dans ce groupe il y a certaines candidatures qui ne viennent pas de pays spécifiquement multilingues, mais qui cherchent plutôt à obtenir des domaines déjà existants dans leur traduction à ces langues-là. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être réviser. Je soutiens la position du Royaume-Uni pour donner la priorité ensuite aux domaines géographiques qui ont été soutenus par les gouvernements respectifs dans la mesure où ils vont servir à transmettre des valeurs, des intérêts à caractère public. J'ajouterai aussi les domaines de communauté ou qui ont été qualifiés de ce nom par les communautés et qui possèdent le soutien, parce que le guide du candidat l'exige, qu'il compte sur le soutien des organisations représentatives. Certains chiffres qui me sont présentés, les domaines de communauté ont été au nombre de 84, les domaines de communauté, géographiques au nombre de 66 et les IDN au nombre de 116 en comparaison avec les 1930 domaines qui ont été demandés. Cela ne présupposerait un très grand problème, mais d'autres idées avec la même orientation, à savoir tenir compte d'autres intérêts qui ont été gérés au moment où l'on a proposé ce système automatique, concerne par exemple la possibilité de donner une priorité à des candidats qui n'ont demandé qu'un domaine, pas 10 ou 20, 77 ou 100 et quelques, comme c'est le cas de certaines candidatures. Le candidat qui a demandé un seul domaine, c'est parce qu'il a vraiment intérêt à se servir de ce domaine à part l'intérêt économique qu'il pourrait y porter. Une autre idée serait celle de mettre en premier lieu les candidatures en provenance d'institutions, et j'insiste, des institutions qui seront établies dans des pays africains. Les candidatures africaines sont au nombre de 17. Ensuite, il y en a 24 de l'Amérique latine et des Caraïbes. L'Asie-Pacifique, 303 candidatures. Ce n'est pas des chiffres extraordinaires. J'insiste pour que cela altère en quelque sorte le système qui avait été conçu. Et ce serait un geste de l'ICANN envers le monde pour montrer qu'elle tient compte de l'intérêt public. Au moins dans mon pays, l'ICANN ne fait pas partie des informations habituelles, des informations quotidiennes. C'est justement à cause de ce processus de création de nouveaux domaines qui a fait que l'ICANN a été présente dans les informations. Donc je crois qu'il est important qu'ICANN tienne compte et profite de ce moment pour améliorer son image devant le monde. Parce que bien des fois, l'image que l'on a de l'ICANN, c'est l'image d'un modèle multipartite, et c'est très bien, ça je soutiens personnellement et on l'applique dans notre pays, dans les politiques de gouvernement, mais en fin de compte, c'est les mêmes entreprises qui obtiennent toujours des bénéfices. Et donc c'est une organisation qui continue à se regarder elle-même. Il semblerait qu'on ne tienne compte que des intérêts des entreprises, des bureaux d'enregistrement, lorsqu'un domaine a un impact extraordinaire sur des entreprises dont les affaires ne consistent pas à gérer un domaine, mais qui dépendent d'Internet. Donc, pour respecter cette orientation, disons, je soutiens les commentaires de mon collègue de l'Australie. Nous, les gouvernements, nous sommes vraiment très inquiets des conséquences que cela pourrait avoir pour des institutions qui ne cherchent qui n'ont pas cherché à avoir un processus comme celui-ci et qui verraient leurs droits affectés par ce nouveau programme de GTLD. Je regrette énormément d'avoir été aussi long, que je vous remercie de d'avoir fait attention à ce que je disais. Merci beaucoup.
Okay. I see a few more requests.
Merci beaucoup l'Espagne. Je vois d'autres demandes de parole. Quant au point lié aux prochaines étapes, aux prochaines séries, ces questions ont fait l'objet d'un débat en quelque sorte hier pendant la réunion de haut niveau et ces messages seront transmis. Je crois que ce qui nous met une plus grande pression cet après-midi, c'est que nous avons une tâche face au GAC. Ce qui concerne les alertes précoces et le conseil du GAC et assurer qu'il y a une clarté autour des mécanismes existants liés aux candidatures et aux engagements qui sont pris et pour savoir quels sont les accords qui peuvent être passer avec les candidats autour de ces inquiétudes, comment on peut trouver une solution pour ces inquiétudes, au moyen de quel mécanisme ou de quel instrument ou de quel outil. Nous allons aborder maintenant le prochain point de l'ordre du jour. Nous avons déjà dit quelles étaient nos inquiétudes. C'est sur ce point. D'accord, c'est l'Allemagne qui prend la parole maintenant. Si nous pouvons donc passer au point suivant, c'est l'Allemagne qui prend la parole. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. J'essaierai d'être aussi bref que possible. Je voudrais revenir à la question de notre collègue de l'Australie et du Royaume-Uni. Notre collègue du Royaume-Uni. Ceci a trait aux sauvegardes quant à la politique publique dans le nouveau processus des GTLD et en particulier quant au TLD dans un marché réglementé. Je voudrais demander jusqu'à quel point il est nécessaire de décider maintenant des conditions spécifiques et de les définir de façon exacte parce que sur ce marché, nous avons un cadre légal dans beaucoup de juridictions et cela devrait suffire en termes généraux. Mais s'il y a un malentendu par rapport à un GTLD, il se pourrait, enfin, qu'il s'agisse d'une possibilité. Quand je parle de ça, je parle du GAC d'un côté et il se peut que l'ICANN puisse aussi intervenir et ce serait intéressant de voir si cela est vraiment possible et jusqu'à quel point. Et savoir si nous pouvons avoir une précision et savoir pour quelqu'un nous pourrions avoir une précision parce que ICANN peut intervenir de plusieurs manières. Merci beaucoup. C'est Heather qui parle. Merci l'Allemagne. Donc, nous allons maintenant aller au prochain point lié au processus concernant le Comité olympique international et la Croix-Rouge. Je vais céder la parole aux États-Unis. C'est les États-Unis qui parlent de ceci, qui prennent la parole. J'espère que nous allons rattraper le temps perdu. Nous avons pris bonne note, bien sûr, de la résolution du 13 septembre. Et maintenant, nous tenons compte de la date de janvier 2013 et bien sûr, nous tenons vraiment compte d'une recommandation récemment publiée de l'équipe de rédaction de la GNSO sur la question du COI et la Croix-Rouge. Je voudrais maintenant vous souligner quelque chose parce que nous n'avons pas trop de temps pour rentrer dans le détail. Je voudrais de toute façon le faire dans une réunion future. Nous allons parler de ce qui se passe au GNSO avec cette recommandation. Si la GNSO accepte la recommandation pour commencer un PDP, c'est-à-dire un processus d'élaboration de politique, ce que nous voudrions aujourd'hui souligner devant vous, c'est que nous ne comprenons pas encore clairement, pas du tout clairement. OK, ce n'est ni un peu, ni beaucoup, ce n'est pas du tout clair, pas d'ambiguïté là-dessus. Dans un cas comme celui-ci, il y a une situation où le GAC a donné une recommandation qui était basée, c'est assez singulier, pardon, un conseil qui est basé directement sur les législations nationales et les traités internationaux, et en particulier les traités que nous négocions, que nous signons, dont nous sommes des signataires, et donc nous sommes responsables de les faire respecter. Ce conseil en particulier avait été complètement inscrit sur deux catégories. Nous assumons notre responsabilité pour nos lois et par l'interprétation que nous en faisons et par l'interprétation que nous faisons de notre responsabilité dans un traité international de façon très sérieuse. Lorsque nous proposons un conseil basé sur ces deux questions, nous essayons de faire de notre mieux pour vous donner ce que nous sommes capables de vous donner de mieux. C'est un principe souverain, mais lorsque nous sommes dans une situation où cela, c'est une façon de le dire, c'est une question. Ce qui manquait dans le conseil du GAC qui pourrait faire penser au conseil d'administration et à la GNSO qu'ils avaient besoin de développer une politique. Ce n'est pas clair pour nous si nous devions nous baser sur ces obligations posées par les traités et les lois nationales que nous trouvions pas très claires, ou si la politique devait être appelée comme une mise en œuvre parce que le Conseil, basé sur ses prémices, était considéré comme quelque chose d'acceptable sur la base de ce qui n'a pas encore été rédigé de ce traité. Mais il y a peut-être certains détails de mise en œuvre sur lesquels il faut travailler. Et moi, je voudrais le faire pour que l'on puisse mieux comprendre. Ce qui pose une grande question, une question très importante au fond de nos cerveaux, c'est quelle est la condition politique à laquelle nous devons réagir et comment nous allons interagir avec ce processus. Ce n'est pas quelque chose sur quoi il faudra débattre aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est posé pour ceux qui ne sont pas membres du BGRI, mais qui sont membres du conseil d'administration, mais nous l'avons posé cela comme un cas d'étude parce que cela soulève un point très important pour nous tous. C'est Steve Crocker qui prend la parole. Je voudrais vous faire un commentaire. Je pense qu'il y a certaines présuppositions ou quelques malentendus et il y a peut-être des points à affiner, à préciser dans notre processus. Si je comprends bien la question que vous nous posez, cette question présuppose que nous avons envoyé le conseil que vous nous aviez fourni, basé sur les politiques et les engagements que vous aviez assumés, que nous avions envoyé cela à la GNSO pour qu'elle le réalise en tant que processus d'élaboration des politiques. Et ce n'était pas notre intention, au moins, même si on a l'impression que cela peut avoir l'air de l'être. Nous devons donc essayer de tout clarifier. Dans tous les cas, indépendamment de ce que nous dirons, il faut que nous soyons sûrs que ce que nous sommes en train de faire soit clairement perçu comme ce que nous sommes en train de faire, que l'on nous demande les détails de mise en œuvre requis. Il est aussi très important que l'on transmettre à la société ces thèmes de façon claire pour que personne ne soit étonné ni surpris. Nous ne voulons pas chercher un processus d'élaboration des politiques pour quelque chose que vous avez, pour laquelle vous avez déjà proposé un conseil. Je crois que nous n'avons pas été aussi minutieux ou clairs dans notre processus et il est très utile d'avoir ce type de dialogue pour préciser la terminologie et les étapes et pour que nos communications internes, pour que nous ne vous ignorions pas ou que nous ne finissions pas par créer un processus parallèle du type que ce soit. Chérine, c'est Chérine qui prend la parole. Je ne veux pas trop ajouter, Suzanne, nous avons eu une correspondance sur la question de la Croix-Rouge et du Comité olympique international. Je crois que c'est une bonne étude de cas parce que nous sommes bien des fois, nous voyons un peu les choses de biais pour accepter positivement le conseil du GAC et pour respecter la due diligence pour certains cas. Mais ce qui est indiquer en ce sens que le Conseil du GAC est basé sur les lois internationales et les traités internationaux, c'est quelque chose d'important. Prenons cela comme une étude de cas et soyons sûrs de travailler là. Mais c'est Fadi qui prend la parole. Pour tous les cas, j'ai pris note et nous devons donner une réponse qui clarifie les choses, qui précise les choses. Je veux dire que nous allons faire la même chose par rapport aux commentaires de l'Allemagne avant. Nous allons l'inclure dans notre réponse aux contributions de l'Union du Royaume-Uni et de l'Australie. C'est Mme Dryden qui parle. Merci beaucoup. Je vais faire un commentaire sur les organisations intergouvernementales, très bref. Et ensuite, nous pouvons parler des questions liées à l'éthique et au conflit d'intérêts. Par rapport aux organisations intergouvernementales et aux OIG, je veux vous dire que nous travaillons sur la question de la protection pour les OIG pour nous assurer qu'ils auront la priorité due et la considération nécessaire de la protection qui leur est due. Il se peut qu'il y ait quelques résultats et quelques commentaires du GAC. Par rapport au conflit d'intérêts, c'est la Norvège qui voudrait faire des commentaires. Merci beaucoup, c'est la Norvège qui prend la parole. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de parler de ceci. Je voudrais tout simplement rappeler le Conseil du GAC lors de la réunion de Prague, où il était dit qu'il fallait procéder de façon urgente pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer d'avoir une politique d'éthique et de conflit d'intérêts qui serait efficace et qui pourrait être appliquée. Nous reconnaissons que ce travail a été fait, nous savons et nous reconnaissons la réponse qui nous a été donnée, mais ce que nous vous demandons, c'est un commentaire rapide sur les dates butoirs pour les différentes phases décrites dans la réponse, si cela est possible. Et bien sûr, une confirmation de l'engagement de la part du conseil d'administration en ce qui concerne le fait de garder la première priorité pour ce thème. C'est Heather qui prend la parole. Merci la Norvège. C'est Bruce Tonkin qui prend la parole. Merci. Je veux d'abord confirmer qu'il s'agit d'un thème de la plus grande priorité et qu'il continuera de l'être dans le conseil d'administration. Par rapport aux prochaines phases, lors de la réunion de Prague, nous avons eu la contribution d'un groupe d'experts qui avait été présenté publiquement à Prague. Nous nous sommes engagés à suivre les recommandations qu'ils nous ont données, les conseils qu'ils nous ont donnés. Nous avons un document que nous estimons qu'il sera dont la discussion se fera jeudi. Dans la réunion, il y a différentes recommandations concernant les guides, les critères tenant compte de la gouvernance de l'entreprise, l'éthique et les conflits d'intérêts pour tout mettre dans un même document. Il y a à peu près 11 pages avec 28 sections dans ce document et chacune des sections, certaines sections sont des résumés de notre engagement par rapport à la notion de service qui avait été une inquiétude du GAC et d'autres membres. Et là, nous tenons compte aussi du conseil offert par ce groupe d'experts. Donc, cela sera abordé par le conseil d'administration et dans la réunion de cette semaine. Donc, nous avançons tel que nous l'avons prévu.
Bruce, okay. So...
Merci, Bruce, dit la présidente. Après, nous passons à la question de l'évolutivité de la racine et je donne la parole à la Suède. Merci pour... l'occasion de m'adresser à vous, c'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'avoir ce type de dialogue avec vous sur des questions aussi importantes. La question de l'évolutivité de la racine est une de mes questions favorites et je aimerais l'aborder depuis une perspective différente. Le communiqué de Prague fait référence à cette question de l'évolutivité de la racine. Un nouveau processus sera défini pour donner lieu au ralentissement ou la marche arrière ou pour arrêter certaines inscriptions dans la racine. Nous savons que vous travaillez aussi avec le comité consultatif du système racine. Nous avons eu une présentation faite par M. Kurt Pritz sur l'introduction du processus de attribution de priorité sur la base d'un tirage au sort. Nous avons donc eu une discussion et à ce moment-là, j'ai signalé qu'au lieu d'avoir un seul numéro, on pourrait avoir des milliers, car ce n'est pas là le problème concret. Ce problème est plutôt lié à la vitesse. Comment peut-on ajuster la vitesse d'introduction des TLD dans la racine? Dans sa présentation, Kurt a dit qu'il y aura des groupes d'environ une vingtaine de semaines. Mais je pense que le plus important, indépendamment des nombres, c'est la vitesse, le rythme auquel on fera l'introduction dans la racine. Il y aura aussi des mesures techniques, mais je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'il est aussi important d'examiner les processus administratifs. Car il faut s'assurer que tout cela soit sûr et que tout cela fonctionne, car les niveaux de service pour les GTLD existants et pour les nouveaux GTLD ne doit pas être affecté, ne doit pas être réduit ou détérioré. Ces processus administratifs doivent également être mesurés. Voilà l'information que nous devons analyser et il nous faut poursuivre le débat sur cette question lorsque on définira la façon d'avancer avec ces mesures et lorsqu'on aura les contributions des différentes parties intéressées. Heather reprend la parole. Merci, la Suède. Steve Crocker prend la parole. Quelle est la question en réalité? D'après tout ce que tu as dit, la Suède reprend la parole. C'est une bonne question. Bien fait, c'est une bonne question. En réalité, je n'avais pas une question. Non, mais bien sûr, j'ai une question. Ma question est la suivante. Est-ce que vous prenez en compte les processus administratifs? Parce qu'à partir de la lecture de ces documents, je crois qu'on met plutôt l'accent sur les aspects techniques, qui sont d'ailleurs très, très importants. On en parle depuis longtemps. Mais je voudrais que les aspects administratifs soient pris en compte. Donc, Steve reprend la parole. Tu veux savoir si les processus administratifs sont pris en compte? La réponse est oui. La Suède répond « Merci ». Bruce reprend la parole. En fait, on pensait qu'il s'agissait d'une limitation, les processus administratifs. On pensait que c'était une limitation. Et c'est pourquoi nous sommes focalisés sur les processus administratifs. Liana publie des statistiques de sa partie en termes de processus. Donc, j'imagine que s'il y a des changements au niveau de la longueur d'une file d'attente, combien de temps prend-on pour répondre à une demande de GTLD? Toutes ces informations sont publiées dans les statistiques. C'est un monitoring, un suivi qui est fait par Liana et qui est disponible. Fadi prend la parole. Pour préciser un petit peu plus les choses, les deux aspects que tu as évoqués sont très importants. Tout d'abord, comment va-t-on gérer soigneusement le flux d'informations? Et Kurt a parlé de ces questions. Et il y aura trois moyens. D'abord, le tirage au sort pour passer par une de ces portes-là. Mais ces portes-là vont mesurer le flux qui les traverse pour éviter toute situation qui pourrait compromettre la stabilité du système. Il y aura donc trois portes, trois endroits différents. Et y compris quand les gens vont se presser pour avancer une partie du processus, on va toujours essayer de s'assurer que la stabilité du système ne soit pas compromise. Les processus administratifs font partie de l'évaluation. Ces candidatures sont analysées de ce point de vue aussi. Et un aspect qui n'a pas été abordé ici tient aux aspects administratifs internes de l'ICANN pour pouvoir nous assurer que cette croissance du nombre de registres puisse être géré. Donc nous consacrons un grand nombre d'efforts pour nous assurer que le niveau de service que nous proposons au bureau d'enregistrement et au registre dans cet espace de plus en plus important soit d'une qualité et d'un niveau adéquat afin que nous puissions toujours assurer la bonne qualité de nos services. Heather reprend la parole. Il nous reste que quelques minutes pour un dernier commentaire de la Russie par rapport au blocage. Merci, Madame la Présidente. La Russie prend la parole. J'aimerais parler des blocages de contenu. Je vais parler en russe. Dans la présentation que nous avons entendue du SSAC, on nous a présenté donc une analyse du blocage du DNS qui nous a permis de comprendre que les méthodes sont inefficaces, inefficientes, ou bien que ces méthodes peuvent affecter le DNS sec ou bien qui peuvent arriver à segmenter le réseau. Il est clair qu'il y aura des situations où des contenus devront être bloqués et qu'il vaut mieux gérer tout cela au niveau des services. Mais la conclusion principale que l'on peut tirer de cela, c'est qu'il nous faudra peut-être développer ou formuler des recommandations afin de déterminer les méthodes nécessaires pour filtrer et bloquer les contenus. Il peut y avoir des problèmes en ce qui concerne l'internationalisation des contenus et le mettre en rapport avec les législations locales. La motivation principale ici peut être celle de garantir la stabilité et l'intégrité d'Internet. Merci. Heather prend la parole. Merci, la Russie. Nous avons une demande de prise de parole du Brésil. Merci, Heather. Le Brésil prend la parole. Je vais être très bref. Sachant qu'il s'agit du commentaire final, j'aimerais dire que du point de vue du Brésil, nous voyons que nous sommes face à une situation très spéciale dans l'ICANN. Monsieur Fadi Chehadé a dit, et nous l'avons écouté avec grand intérêt, il a mentionné les priorités d'Internet, l'internationalisation et l'évolution du modèle multipartite. Le Brésil est prêt à travailler au sein du GAC avec les collègues dans cet organe pour s'assurer que le GAC pourra vous aider et pourra aider votre organisation à respecter les objectifs. Comme je dois être bref, je tiens à mentionner que l'ICANN a une occasion unique de montrer qui peut servir l'intérêt public. Ce processus des nouveaux GTLD, malgré tous les doutes auxquels ils donnent lieu, qui sont normales dans un processus aussi complexe, représentent une opportunité pour l'ICANN de servir l'intérêt public. J'aimerais parler de deux actions qui pourraient accompagner cette occasion qui se présente à l'ICANN pour servir l'intérêt public. Si les TLD sponsorisés par les gouvernements pouvaient être se voir accorder une priorité et en même temps si on pouvait parvenir à un équilibre global entre les nations, parce que nous savons que nous avons un plus faible nombre de candidatures de l'Amérique latine, d'Asie-Pacifique et de l'Afrique, peut-être qu'on pourrait parvenir à un plus grand équilibre si ces régions pouvaient faire partie des priorités accordées dans le cadre de ce processus. Heather prend la parole. Merci le Brésil pour ses paroles. Et sur ce, je pense que nous pouvons clore notre réunion avec le conseil d'administration. Merci Fadi. Je crois que c'est la première réunion formelle à laquelle Fadi assiste en tant que PDG. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous remercions Steve et le reste du conseil d'administration pour ces échanges qui ont été certes très utiles. Steve Crocker prend la parole. J'aimerais remercier Heather et tous les membres du GAC de la part du conseil d'administration. Nous prenons ce travail très au sérieux et nous considérons que ces discussions sont vraiment très utiles. Nous profitons beaucoup de ces discussions. Merci.